Hier après-midi, les États-Unis ont bombardé l'Iran et c'est l'or qui s'est pété la gueule. Deuxième fois en 5 jours que les Ricains tirent sur à peu près tout ce qui est susceptible de leur tirer dessus. L'Iran a bien sûr riposté dans l'heure sur une base américaine en Jordanie, 13 missiles, Bahreïn a demandé à sa population de rejoindre l'abri le plus proche, le Koweït a abattu des drones au-dessus de son territoire. Et pendant que tout ça se passait en direct sur les chaînes d'info, ou presque, bah vous savez ce qu'a fait l'or ? L'or s'est pété la figure, il a baissé de 2,5%. Le métal qu'on nous vend depuis 5000 ans comme étant la protection ultime contre tout, celui qu'on achète précisément pour ce soir, ce genre de soir-là, eh ben s'est fait ramasser pendant que le ciel clignotait dans tous les sens, allumé par les missiles, les drones et les bombes. Aujourd'hui, c'est rien que pour vos taux. Demain ne rembourse jamais, Skyfall sur le marché obligataire et 007, permis d'émettre des obligations. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'or se traîne et que la peur n'est plus sur la guerre, mais sur les taux, et que les taux, ils se resserrent. Et je pense qu'à la fin, la réponse est peut-être beaucoup plus inquiétante que la guerre elle-même. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je vais aussi vous raconter comment le gouvernement américain a réussi à faire passer 17 millions de barils de pétrole dans 5 bateaux, et vous allez adorer le calcul. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le mercredi 2 septembre 2026, et je suis Thomas Veillet, et pas James Bond, hélas. Troisième séance de baisse d'affilée à Wall Street, le pétrole au plus haut depuis 5 semaines et le marché obligataire mondial qui continue de partir en fumée pendant que tout le monde regarde ailleurs.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Donc hier, les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran riposte, deux super tankers se prennent des projectiles en sortant d'Hormuz, Bahreïn envoie ses habitants aux abris, mais ça n'intéresse plus personne. Absolument plus personne. Les médias n'en font même plus les gros titres puisque Patrick Bruel a annulé sa tournée et ça c'est vraiment les news qui monopolisent les plateaux télé en ce moment. Pour faire simple, après des mois de promesses, de négociations à deux balles et d'une hypocrisie crasse dans les deux camps, on se retrouve pas plus avancé qu'à la fin du mois de février. Retour casse départ, le pétrole qui titille les 100 dollars et Donald Trump qui ne fait même plus mine de vouloir négocier et qui minimalise l'importance de cette guerre. Bref, c'est pas Make America Great Again, c'est Make America at War Again. Et tout le monde s'en tamponne comme jamais. Donc dans le manuel du parfait petit investisseur, celui qu'on vous vend dans les écoles de trading et en première année dans l'école du monde merveilleux de la finance, celui qu'on récite dans les séminaires de gestion de patrimoine comme un mantra dans un monastère tibétain, eh bien il y a une règle qui n'a jamais bougé, une règle qui est immuable. On nous apprend que quand le monde part en vrille, eh bien il faut acheter de l'or. C'est même à peu près la seule chose que le manuel nous garantit. Guerre, panique, effondrement, apocalypse, l'or monte systématiquement. C'est écrit noir sur blanc, page 1, en Arial 35. Sauf qu'hier soir, l'once d'or a fini à 4 328 $, en baisse de 2,5%. Alors quand l'assurance ne paye pas les dégâts de l'incendie, il y a donc deux possibilités. Soit vous n'avez pas bien lu le contrat, soit le contrat n'était pas celui que vous croyiez. À la fin, l'explication tient en une seule phrase. Et hier, ça n'était pas une séance de peur de la guerre, c'était une séance de peur sur les taux. Et pour commencer, pour ne pas parler des rendements classiques, on va commencer par parler du rendement réel américain. Le rendement réel, c'est une fois qu'on a enlevé l'inflation, donc le vrai, celui qui reste vraiment dans vos poches. Ce rendement-là, hier, il est monté tout simplement à 2,44%, c'est son plus haut depuis fin 2003. Donc, vous, ce matin, vous avez le choix. Option 1, vous achetez un Vrenly, il est beau, il brille, vous pouvez le mettre dans le coffre à la banque cantonale et il vous rapporte exactement 0,0%, que dalle. Et il ne vous rapportera jamais rien du tout. Par contre, en option 2, vous prêtez à l'État américain et lui, il vous versera 4,8% pendant que vous dormez. Le marché a donc choisi le papier, il a peut-être tort, mais il a choisi. Et puis alors, il y a un deuxième truc qui est un petit peu plus dérangeant. La guerre entre Trump et l'Iran, à ce stade, tout le monde s'en tamponne, on a bien compris. On en est au 7e mois, les chaînes de télé n'en font même plus les gros titres. On est passé du porte-avions en direct au bandeau tout en bas de l'écran. Juste après le dernier délire de Scott Bessent ou la dernière vidéo de Britney Spears en slip dans sa cuisine. Quand une guerre devient une routine, elle arrête de faire bouger les prix. Et ça, c'est la vraie leçon qu'il faut retenir de la séance d'hier. Passons maintenant au vrai sujet à la mode, les taux d'intérêt. Le 10 ans japonais a touché 3,01%, du jamais vu depuis 1996. Le 2 ans japonais est à un record historique absolu, tout simplement. Le 30 ans britannique est au plus haut depuis 1998. Le 10 ans français est au plus haut depuis 2008. Le Bund allemand est au plus haut depuis 2011. Et aux États-Unis, ce matin, le 10 ans est à 4,81 et le 30 ans à 5,29. Par contre, il reste un endroit sur cette planète où il ne se passe absolument rien sur les rendements à 10 ans, c'est la Suisse. Le 10 ans helvétique est à 0,4% et il n'a pas bougé depuis que Zurbriggen a pris sa retraite. Et puis je vous le place quand même parce que je le place bientôt tous les jours, pendant qu'on y est, la dette US a passé les 40 100 milliards de dollars. Et avec ces taux qui montent et cet endettement qui grimpe, eh bien ce matin, tous les commentateurs de la planète vont vous expliquer avec une assurance magnifique et une cravate impeccable que les taux montent à cause du pétrole et de l'inflation. Eh bien c'est faux, et je peux le prouver avec deux chiffres. Depuis le 27 février, la veille du début de la guerre, le 10 ans américain a pris 83 points de base. Sur ces 83 points, 76 viennent du rendement réel. Et les anticipations d'inflation à 10 ans, elles, pendant ce temps, elles ont fait quoi? Eh bien, elles sont passées de 2,26% à 2,34%, 8 points de base. Ce qui revient à dire qu'on croit que l'inflation va être maîtrisée ces prochaines années et va pas continuer à monter. En 6 mois de guerre, 6 mois de baril à 90 dollars et de gaz européen au plus haut de 2023, on a fait 8 points de base. Autant vous dire que cette variation, c'est que dalle. C'est un peu comme si vous dépassiez la limitation de vitesse d'un demi-kilomètre à l'heure entre Genève et Lausanne. Donc non, le marché obligataire n'a pas peur de l'inflation. Il a peur d'autre chose. Et cette chose-là, c'est la quantité. Il y a 10 ans, la moitié des bons du Trésor américain dormaient tranquillement dans des banques centrales. C'est-à-dire chez des gens qui achètent ces obligations sans regarder l'étiquette, parce que c'est leur métier et qu'on les paye pour faire ça. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. 75% du stock de ces bons du Trésor est entre les mains d'investisseurs privés. Des hedge funds, des fonds, des particuliers. Et ceux-là, ils regardent l'étiquette, ils comparent. Là aussi, ils sont payés pour ça. Et ils sont aussi payés pour râler et se plaindre. Et surtout, ils ont le droit de dire « Non, j'en veux pas de ton truc ». Et pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre pourquoi ils râlent. Il suffit déjà de regarder les clowns qui nous gouvernent. En Amérique, en France, en Angleterre, au Japon, partout, c'est le même cirque. Est-ce que vous avez vraiment envie de leur prêter du pognon sur 30 ans à ces gens-là? Moi, je sais pas, mais à Trump, je lui prêterais même pas la pièce pour mettre dans le chariot au supermarché. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a un deuxième acheteur qui est arrivé sur le marché. Et lui, personne ne l'avait vu venir. Oui, vous avez compris, c'est les entreprises américaines qui ont émis 1700 milliards de dollars de dettes cette année, en 2026. Et on est en hausse de 27%. Et là-dedans, il y a plus de 200 milliards au minimum qui viennent seulement des géants de la tech qui construisent leur data center. Parce que oui, faire tourner votre ChatGPT quand vous lui demandez la recette du fondant au chocolat ou la durée de cuisson d'une côte de bœuf au barbecue, eh bien ça coûte plus de pognon, beaucoup plus de pognon. Et en plus, il faut réinvestir chaque année parce que les puces d'il y a 12 mois, celles qui sont faites par Nvidia, sont déjà bonnes pour la casse, ou presque. Donc ces 200 milliards à eux tout seuls, ça représente le quart de ce que le Trésor américain place chez les investisseurs privés. L'an dernier, c'était 5 fois moins. Alors, je ne sais pas si vous réalisez bien ce que ça veut dire. L'État américain se fait concurrencer sur son propre marché par des boîtes qui ont un meilleur bilan que lui, un meilleur track record que lui et de meilleures perspectives que lui. Géré aussi des fois par des mecs un peu moins stupides que certains politiciens. Pour faire simple, quand on voit l'état financier des grands pays que l'on qualifie de développés, on veut bien leur prêter de l'argent, évidemment, mais plus cher. Et quand le 10 ans américain passe les 4,8% en montant, on se dit qu'on peut autant balancer un peu de son or pour prêter un peu de pognon à Trump. Et quand la guerre en Iran va vraiment dégénérer, il sera toujours temps d'aller racheter des lingots et de les planquer dans son frigo, juste au cas où. Et puis alors là-dessus, il y a un type qui est venu jeter de l'essence sur le barbecue hier. Il s'appelle Michael Barr, c'est un gouverneur de la Fed, c'est un gars plutôt du centre, et c'est un gars qui fait rarement des vagues au niveau des taux, c'est le genre qui fait pas de bruit. Il a expliqué, lui, hier, qu'il faudrait quand même agir de manière décisive si l'inflation ne reculait pas de sitôt. Et il a expliqué, il a cité explicitement la réunion des 15 et 16 septembre. Résultat, la probabilité d'une hausse de taux est passée à 68%. Il y a une semaine, on était encore à 30 avant le discours de Jackson Hole. Et comme elle prend à peu près 3 ou 4 points par jour depuis vendredi dernier, à ce rythme-là, le 16 septembre, on sera à 112% de probabilité de hausse des taux lors du meeting de la Fed. Bon, maintenant, je m'excuse, je suis désolé, mais je vais quand même devoir vous parler encore une fois de la guerre à Hormuz. Oui, je sais que tout le monde s'en fout et qu'on est tous passés à autre chose, mais même Trump ne s'y intéresse même plus et il parle même de petite guerre. D'ailleurs, il a publié un communiqué de presse expliquant qu'il ne cherchait pas à forcer l'Iran à venir négocier, qu'il avait un contrôle quasi total du détroit et que la prochaine attaque serait tellement massive qu'il ne restera plus grand-chose de la République islamique d'Iran. Alors, ne pas vouloir forcer quelqu'un à négocier tout en menaçant de le rayer de la carte, c'est un concept diplomatique qu'il faudra qu'on m'explique un jour. Mais par contre, alors, le plus fou dans tout ça, c'est que le mec radote complètement, hein, et qu'il a l'air d'être encore plus sénile que Joe Biden ne l'était à 36 heures de la fin de son mandat. Non, parce que regardez plutôt, si on monte dans la DeLorean de Retour vers le futur, on se souviendra quand même que le 11 mars, Donald Trump expliquait à Axios que la guerre allait bientôt se terminer parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien à cibler, plus rien à détruire. On se souviendra également que le 8 juin, je cite, « encore 2 ou 3 semaines de bombardement et il ne leur restera absolument plus rien ». Ça, c'était le 8 juin. Le 8 juin, c'était il y a 3 mois. 3 mois, et toujours les mêmes phrases. Toujours les mêmes 2 ou 3 semaines. Et pendant ce temps-là, sa cote de popularité est à 33% et seulement 36% des Américains approuvent cette guerre. Enfin, pour ceux qui savent qu'il y a une guerre à l'extérieur. Et puis, plus il tape, moins ça lui rapporte, électoralement parlant. Et les élections de mi-mandat, c'est en novembre. Je vous laisse donc faire le calcul. Il faut que quelque chose change. Mais sans truquer les élections, on voit mal comment Trump va s'en sortir. À moins de trouver un gisement de pétrole sous la Maison Blanche et de découvrir une raffinerie en état de marche dans la banlieue de Washington pour transformer tout ça en essence et inonder le marché en 2 mois pour faire chuter le galon à 1,50. Ou alors, il pourrait encore se faire tirer dessus une fois. Jamais 203. Maintenant, on arrive au joke du jour, ou alors au foutage de gueule du jour, c'est selon comment vous voulez le prendre. Cette nuit, le secrétaire américain à l'énergie a fait une déclaration, je pense qu'il aurait mieux fait de rester au bar à se bourrer la gueule au Jack Daniels, puisqu'il a dit que 17 millions de barils de pétrole avaient transité par le détroit d'Hormuz depuis le début de la semaine. 17 millions! Donc selon Washington, tout roule, le détroit fonctionne, le détroit est ouvert, circulé, il n'y a rien à voir! Sauf que le même jour, les données de suivi maritime, qui sont publiques, accessibles à n'importe qui avec une connexion Internet, ont compté le nombre de navires ayant traversé le détroit. Il y en a eu 5. 5 bateaux. Alors, on va faire le calcul ensemble. 17 millions de barils divisé par 5 bateaux, ça fait 3,4 millions de barils par bateau. Maintenant, le plus gros pétrolier du monde, le vrai, le monstre, celui qui fait 340 mètres de long et qu'on peut faire entrer dans presque aucun port de la planète, il en transporte en moyenne 2 millions. Alors, oui, bon, c'est vrai, en cherchant un peu, j'en ai trouvé un qui peut emporter 3,2 millions de barils, mais c'est quand même peu probable qu'il soit passé 5 fois dans le détroit cette semaine. Donc, on va dire environ 2 millions, allez, même 2,5 millions par bateau. Il faudrait donc que chacun de ces 5 navires soit 70% plus grand pour que les déclarations de l'autre clown tiennent la route. Donc, soit Washington a inventé en secret une nouvelle catégorie de bateaux, soit on nous prend tout simplement pour des cons. Alors, moi je me prononcerai pas sur le sujet, mais le baril, lui, visiblement, il s'est prononcé puisque le WTI est à 91,40 ce matin et le Brent à 96,15. Encore 2 jours comme ça, et on va taper les $100 de nouveau et on en reparlera. Je rappelle quand même que le 2 janvier, on était à 57 sur l'un et à 62 sur l'autre, ce qui fait plus ou moins, à la louche, 55% de hausse sur 8 mois. Passons maintenant rapidement à Wall Street parce qu'il y a un signal et une belle histoire. Le signal, lui, il est technique. Le Dow Jones a clôturé sous sa moyenne mobile des 50 jours pour la première fois depuis le 10 avril. Ça fait 5 mois que cette moyenne tenait. En juin, elle a tenu. En juillet, elle a tenu. Le 29, elle a fini 2 points au-dessus de malheureux points et le Dow Jones est reparti comme un avion pour un rallye de 2291 points en 5 séances. Mais cette fois, elle a cassé. La moyenne mobile des 50 jours a cassé. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le monde s'écroule. Et ne venez pas me dire que je suis bearish. C'est fatigant. Je vous explique simplement les choses. Ça veut dire que les modèles quantitatifs vont se mettre à vendre parce que d'autres modèles quantitatifs se sont mis à vendre également. C'est aussi débile que ça. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis alors, la belle histoire du jour, c'est Dell. Alors écoutez-moi ce parcours, hein. Moins 7% durant la séance avec le reste de la cote, et puis la société publie après la clôture et le titre prend 9%. Un bénéfice de 7,40$ par action contre 4,91$ attendu, joli ratage au passage de la part des experts, des serveurs pour l'intelligence artificielle qui bien évidemment double, un carnet de commandes record et surtout la prévision annuelle relevée de 167 milliards à 192 milliards. 25 milliards de chiffres d'affaires ajoutés sur une seule révision, sur un seul trimestre. Le titre affiche 238% de hausse depuis le 1er janvier et il se paye 20 fois les bénéfices contre une moyenne de 11 fois sur 5 ans. Alors, pourquoi ça ? Oui, pourquoi ça ? Parce qu'ils n'ont pas inventé quelque chose. Dell n'a rien inventé. Dell assemble des boîtes en métal et revend les puces des autres. Eh bien, Dell aujourd'hui monte parce qu'il livre, parce qu'il délivre. C'est le vieux principe de la ruée vers l'or. Personne ne sait qui trouvera la prochaine grosse pépite, mais tout le monde sait qui vend les pelles. Histoire un peu similaire chez Palo Alto, hein, le monstre de la cybersécurité qui a repris 5% après la clôture. Leur patron estime qu'il y a sur cette planète 1000 milliards de dollars de cybersécurité périmés à remplacer parce que rien de ce qui a été installé il y a 7 ou 10 ans ne tient face à des attaques qui vont à la vitesse de la lumière et de l'intelligence artificielle. Et puis, il a ajouté une phrase assez cool, je dois dire, parce qu'il a dit « Il y a 9 mois, on était jugés et condamnés à mort parce que l'IA allait nous bouffer le déjeuner, le petit déjeuner et le dîner. Et finalement, on va dîner avec elle. » Le titre se paye 87 fois les bénéfices. À mon avis, ils doivent dîner dans un étoilé Michelin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mercredi 2 septembre 2026 ? Bah d'abord, on retiendra qu'on a bombardé l'Iran et que l'or a baissé, donc ce n'était pas une valeur refuge. On retiendra que le marché obligataire mondial est en train de casser des records qui datent de 96, 98, 2008, 2011, tous en même temps, et que ce n'est pas à cause de l'inflation, que c'est à cause de la quantité de dettes qu'on demande au monde d'avaler, de digérer, d'absorber. Et on retient qu'on nous a expliqué avec le plus grand sérieux que 17 millions de barils étaient passés par 5 bateaux au travers du détroit d'Ormuz. Mais moi, je vous garde quand même le meilleur pour la fin parce que ce truc-là, il est juste absolument splendide. Hier, en conférence de presse au G20, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a voulu nous rassurer sur l'efficacité des sanctions contre l'Iran. Et ses mots exacts étaient... Je cite, « Nous sommes en train d'enterrer la tête du serpent iranien. Le serpent ne sait pas encore qu'il est mort, mais il arrêtera de gigoter quand le soleil se couchera. » Voilà, le serpent, le coucher de soleil, je ne sais pas ce que le mec il fume, mais ça doit être pas mal. Et puis alors, le même homme, dans la même conférence de presse, dans la foulée, il a quand même expliqué que le détroit d'Ormuz serait une étendue d'eau sans valeur dans les 2 ans et que la flambée des taulons était une histoire de croissance. Alors déjà, on n'en sait rien pour les taulons. Ensuite, dans 2 ans, il ne sera plus là. Mais souvenez-vous quand même que ce monsieur-là, c'est aussi celui qui doit vous vendre plus de 230 milliards de dollars d'obligations à 10 ans, à 20 ans et à 30 ans. Et tout ça, chaque trimestre. Alors, je sais pas si vous prêteriez votre argent à un type qui parle de serpent au coucher du soleil, mais moi je me pose la question. Mais si la réponse, si votre réponse est non, bah vous venez de comprendre tout seul pourquoi les taux longs montent partout dans le monde. Et je pense d'ailleurs que vous n'aviez même pas besoin de moi pour comprendre ça. Aujourd'hui, on aura l'emploi privé ADP, hein, l'antichambre des chiffres de vendredi. Ce sera à 14h15 et on attend 48 000 créations d'emplois. Il y aura les stocks pétroliers à 16h30 et le livre beige de la Fed à 20h ce soir. Et puis donc, après la clôture, on attendra surtout Broadcom, mais il y aura aussi Hewlett-Packard et Snowflake qui publieront le résultat trimestriel. Et puis vendredi, ce sera bien sûr les chiffres officiels de l'emploi. Mais ça, je suis pas sûr, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on commente, on partage, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche pour ne rien rater de la prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente journée et moi, je vous dis bien sûr à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.